Boileau en reparle 24, mais pourquoi suis-je au courant de cette nouvelle? Alors, le sujet des médias, vous vous en doutez, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que j'en fais partie. Des fois plus, des fois moins. J'ai commencé dans un grand fracas il y a une quinzaine d'années sur une émission qui s'appelait « Je regarde moi non plus ». Ça a été suivi par Testostérone. J'ai été panéliste les dimanches à Love Story. Et puis, à un moment donné, bon, voilà, la plug se tire parce que, dans mon cas, je suis devenu persona non grata. J'ai osé faire des jokes ces filles. Alors ça, c'est quelque chose, bien entendu, qui est encore interdit aujourd'hui. Même, je pense, c'est une grosse coche de plus. Et après ça, tu commences à comprendre des affaires que naïvement, tu comprenais peut-être pas, c'est-à-dire la mécanique qui existe dans une industrie en particulier. Alors, tu pourras jamais, moi je prétends qu'aucun analyste politique peut être aussi bon qu'un ancien député ou un ancien organisateur de parti. Une des rares personnes qui a fait les deux jobs, c'est Sylvain Lévesque, qui est chroniqueur politique au FM 93 et maintenant à RDI le dimanche. Sylvain, c'est devenu un chum à moi parce qu'on fréquente, on travaille à la même station, au 93 à Québec. Et puis, c'est lui qui me disait que c'était rare sur le marché. Et moi, j'ai toujours reconnu que effectivement, ça prend quelqu'un qui l'a vécu de l'interne. Je prétends qu'un journaliste qui, toute sa vie, a observé une industrie, finit jamais par la connaître. T'agis comme un observateur. Ça fait partie des règles de base. Et l'autre règle, c'est qu'à un moment donné, on s'en sort pas. La pure indépendance journalistique, elle n'existe pas. Raphaël Enthoven, que je vous ai déjà parlé dans un autre podcast, un philosophe français, qui a écrit un livre récemment qui s'appelle « Morale provisoire » que j'ai eu, qui est excellent. Raphaël Enthoven avait à un moment donné écrit sur Twitter « La vraie indépendance journalistique, c'est l'indépendance face à ses propres opinions. » Puis à quelque part, la plupart y arrivent, puis il y en a que c'est pas leur job, parce que c'est pas tous les journalistes qui ont le chapeau, et c'est pas tout le monde qui comprend ça, de dire « je suis super objectif », etc. Mais il reste qu'en bout de ligne, on s'en sort pas. C'est des êtres humains qui font des jobs, là, c'est pas des logiciels, en tout cas, à part en Russie. Oh! Et tout ça pour dire que c'est normal qu'il y ait des sensibilités. C'est pas épouvantable, c'est tout à fait normal. Et tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a des sujets, c'est mon point d'aujourd'hui, il y a des sujets qui sont médiatisés, puis là, tout le monde parle là-dessus, tout le monde débat de ça, tout le monde autour ou qui lit le média ou qui reprend une nouvelle, bref, quand même, média égal, sans dire tout le monde, beaucoup de monde, et plusieurs sont atteints par cette nouvelle-là, sans nécessairement trouver qu'elle est particulièrement bouleversante ou qui change leur vie, là, ce qui est une très petite fraction des nouvelles. Mais moi, ma question aujourd'hui, c'est, il y a des nouvelles que je me demande, pourquoi je suis au courant de ça? Qu'est-ce qui fait tout à coup? Alors, le meilleur exemple, c'est l'espèce de petit guide qui a circulé à l'UQAM, qui disait... En substance, qui disait que ce serait une bonne idée que les professeurs soient sensibilisés et qu'idéalement même mettent en application un français dégenré, avec des nouveaux mots, là, ce qu'on appelle des néologismes, là, des mots nouveaux, littéralement, « seus », « nouvelix », je ne sais même pas les prononcer, en voulant dire que tu enlèves le masculin et le féminin puis tu réinventes ce bout-là du français. Alors, là, ça part en couille. Là, tu as Mathieu Boccoté qui dit que c'est une autre dégradation du français. Il y a un chum à moi qui s'appelle, qui est Jérôme Gravel, qui a écrit un livre qui s'appelle « La face cachée du multiculturalisme », un gars très intéressant qui habite à Québec, qui fait un doctorat en philo à Ottawa. Donc, retenez ça, peut-être que vous allez voir de plus en plus dans les médias « La face cachée du multiculturalisme ». Donc, on comprend que lui, il ne s'inscrit pas là-dedans. Et ces gars, puis j'avais parlé de ça avec Jérôme. J'avais dit « Écoute, toi, tu trouves qu'il arrive telle affaire parce que c'est ton milieu. Tu es dans le milieu universitaire, mais ça sort pas du milieu universitaire jusqu'à temps que quelqu'un reprenne cette nouvelle-là et en fasse un truc d'intérêt qui passe tout à coup dans la presse. Très honnêtement. Qu'il y ait un manifeste qui circule à l'UQAM, moi, je m'en tape. Ça s'appelle la liberté d'expression. Puis, il y a eu une entrevue faite avec la fille qui a mis ça de l'avant. Puis, je dis la fille parce que elle-même est restée anonyme, n'a pas donné son nom de famille. Elle a intervenu par e-mail. Ça fait que le journaliste se demandait si c'est un gars ou une fille qui se la joue justement dégenrée. Donc, on peut croire que c'est peut-être pas ça. Là. C'est peut-être un trans quelconque ou je sais pas. Bref, peu importe. Et puis... La personne elle-même a dit « Hey, moi, je milite pas, là, je vais pas faire sauter des bombes. Là. J'ai écrit un guide parce que je pense que c'est d'intérêt, puis j'ai fait circuler ça, puis etc. » C'était très posé, c'était pas une guerre, c'était quelqu'un qui pour qui ça fait partie de son quotidien puis de ses préoccupations. Comme d'autres, c'est d'autres choses. Moi, j'ai aucun problème avec ça, je m'en fous. Mais là, c'est repris par d'autres journalistes, bien entendu, qui écrivent un article là-dessus. Là, l'autre parle de ça, la patente, comme si c'était sincèrement un fait saillant de l'actualité nationale. Nationale étant provinciale, là, prenez-le du bord que vous voulez, là, selon vos allégeances indépendantistes. Mais c'est faux. C'est totalement faux. Qu'il y ait quelqu'un qui passe un manuel, qui a écrit un guide sur n'importe quoi, que ce soit sur moi qui écris sur mon fameux podcast de mon milkshake, mon shake du matin, puis que je distribue des tracts en disant « Hey, vous devriez tous manger ça parce que franchement, vous allez voir, c'est un déjeuner fantastique. » Ou un autre qui dit « Vive les transgenres, on veut des toits. » Je m'en fous. À un moment donné, ma question, c'est qu'est-ce qui fait que quelque chose d'aussi profondément insignifiant, je ne qualifie pas le contenu, c'est pas insignifiant si ça intéresse quelqu'un, je respecte les intérêts de tout le monde, mais au niveau de l'influence et de l'impact que ça a sur la société, c'est d'une insignifiance crasse. C'est du niveau fait divers. Là, vois-tu, ils ont retrouvé dans une poubelle à Québec une petite fille d'un bébé de 2 ans, bébé, à la rigueur, 2 ans, c'est quasiment presque plus un bébé, c'est épouvantable. Puis que sa mère a été arrêtée, accusée pour meurtre de 23 ans. Bon, là, tu sais, ça, franchement, tu parles de... Mais ça reste un fait divers, je veux dire. C'est un autre exemple où il faut se questionner. Les faits divers, ça intéresse tout le monde parce qu'on est maladivement voyeurs. C'est très humain. Nous, tout le monde, je suis désolé, c'est malheureusement ça. Mais est-ce que si moi, aujourd'hui, je suis pas au courant qu'il y a un bébé qui a été retrouvé dans une poubelle à Québec, ça change quelque chose dans ma vie et ça change quelque chose socialement? Est-ce que ça sensibilise les gens à ne pas jeter leur bébé dans les poubelles? Non, parce que c'est pas un problème répandu, là, on se comprend. Est-ce que... Alors, c'est du pur voyeurisme, 100%. T'as beau me dire après ça, la nouvelle a été bien traitée, je m'en tape. La forme versus le fond, arrêtez. Le fond de cette nouvelle-là, il faut que tout le monde l'assume. Personne ne peut dire le contraire. C'est du pur voyeurisme. Aucun bénéfice à aucun plan nulle part. Si quelqu'un en voit un, vite, dites-le-moi, parce que moi, je n'en vois pas. Ça veut-tu dire que je pense que ça ne devrait pas exister? Pas du tout. Mon critère, c'est pas une nouvelle devrait être valide uniquement si elle change l'impact social. Non, parce que finalement, sérieux, honnêtement, si c'était ça le critère, la presse aurait une page, là, puis ce serait la moitié de la pub. Ça fait que c'est pas ça mon critère. Je fais juste dire que c'est important à quelque part de réaliser qu'à un moment donné, on s'embarque dans un engouement pour un sujet. L'exemple parfait, vous m'avez vu venir, c'est l'immigration, qui est un réel sujet de débat intéressant. Intéressant, celui-là, c'en est un. Valable, mais dans vraie vie, qui prend bien plus de place que la réalité. Vous descendrez quelques épisodes en bas, si vous ne l'avez pas écouté, puis j'explique mon point de vue, pourquoi ici, notamment au Québec, pour 3 raisons, oubliez ça, une immigration massive qui va déstabiliser la population, ça n'arrivera jamais, là. C'est pour, là, je me répète pas, vous écouterez le podcast en question, mais... Alors, c'est la même affaire. C'est qu'il y a des nouvelles comme ça qui, tout à coup, intéressent un milieu en particulier, qui s'appelle le milieu journalistique. La plupart des journalistes ont des allégeances qui sont similaires, comme la plupart des artistes. Dans le cas des artistes, c'est encore plus clair. Je veux dire, t'es une persona non grata si t'es fédéraliste, puis c'est moins vrai qu'avant, remarque, mais je veux dire, t'es pas avec quand même de voir ça. Il y a tout un côté d'humour à gauche que je prétends qu'il est facile à faire, parce que si tu dis les libéraux sont pourris, tu reçois une claque, puis tout le monde t'applaudit, puis c'est donc drôle, c'est donc de bon goût. Si tu commences à défendre les conservateurs, attelle-toi, parce que tes jokes peuvent être écœurante. Guy Nantel est un bon exemple, mais il y a du monde qui vont être gênés parce que le rire, les applaudissements ou les commentaires ou tout ça, il y a une mécanique aussi qu'on se demande qu'est-ce que les autres en pensent. Mon avant-dernier livre s'appelle « L'important, c'est ce que les autres pensent ». C'est basé carrément sur mes expériences et observations médias. C'est pas un conseil, c'est un constat. Ça fait qu'au niveau des nouvelles qui passent dans les journaux, dans les médias, ben il faut pas se leurrer, puis je le répète, c'est pas que c'est grave, faut juste le voir. Puis à un moment donné, se parler soi-même. Moi, j'ai un ami à Québec qui est tout le temps à côté, ses lignes ouvertes, puis qui capote. Mais dans la vraie vie, c'est quoi? Quel impact tu changes par ta réaction? Parce que c'est ça la question, en bout de ligne. La question, c'est, je peux m'intéresser sur un pur plan intellectuel à un sujet, ça, c'est comme bien, c'est normal, et je dirais même, je trouve, bien. Il n'y a pas juste la voix, là. Bon, c'est que y a, tu peux t'intéresser, puis encore là, tu t'intéresses à la voix, voilà, c'est tout, point barre. Mais tu peux aussi t'enflammer pour un sujet pensant réellement qu'il y a quelque chose de pas correct qui est en train d'arriver. C'est là mon intervention. C'est pour ça que je dis, pourquoi je suis au courant de ça? Je commencerai pas à dire aux médias, vous devriez dire ci ou dire ça, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Mais franchement, mon observation, c'est juste de dire, il y a vraiment un paquet de nouvelles qui me parviennent et qui, ultimement, auraient pu jamais me parvenir, puis ça n'aurait rien changé. Autre exemple, rappelez-vous l'épisode édifiant des accommodements raisonnables et de la commission Bouchard-Taylor. Et dans ce temps-là, comme à chaque fois que l'immigration devient chaude, ah ben là, les journaux, comprends-tu, particulièrement le Journal de Montréal, est très chaud à ces questions-là parce que ça chauffe l'électorat puis ça en fait embarquer du monde par ouais, donc la patente. Je sens que la presse est moins là-dedans. C'est-à-dire qu'ils vont couvrir ces nouvelles-là, bien entendu, mais il y a moins le désir là, de passer de feu doux à broil. Et à un moment donné, deux nouvelles que je me souviens qui ont passé vraiment prime time dans le journal, il y en a une que c'était littéralement la une, j'étais abasourdi, d'autres c'était plus loin dans le journal, c'était des nouvelles, bien entendu, de musulmans, une qui disait, non, il y en a une, c'était des juifs, à Outremont, qui avaient demandé à faire givrer les vitres de la piscine du YMCA parce que ça mettait mal à l'aise les juifs hassidiques ou les juifs plus orthodoxes. Comme quoi, quand on passait dans la rue, on pouvait voir des filles en costume de bain à la rigueur. Bon. Moi, ça, là, sérieux, là, je veux dire, combien de fois dans des projets de condo, il y a des réunions où il y a des absurdités qui sont votées, des budgets pas assez hauts, pas trop bas, les pots de fleurs, la patte. Je suis pas toujours au courant de ça. Je m'en fous. Fait que là, tu vas dire, ouais, mais c'est un débat public, là. C'est des histoires de, ben oui puis non. Dans le sens que, si, admettons, les vitres du YMCA avaient effectivement été givrées, parce que le directeur aurait dit « Ah, on prend en considération cette plainte-là. » Ouais, puis, je veux dire, le lendemain, c'est quoi? Répondez-moi pas. « Ah, oh, après ça, ça va être autre chose. » Non, parce que le « autre chose », à un moment donné, ça devient absurde. Puis, le système est bien fait. Ça s'appelle le droit canadien. Il y a juste le kirpan à l'école que j'ai été abasourdi que ça passe. Il y a un couteau qui est vraiment un vrai couteau. Là. Il a beau être dire dans son étui, patente. Ça, à quelque part, ça a passé à travers les mailles du filet, si vous voulez mon avis. Ça s'est rendu en Cour suprême, ça a été voté. C'est correct d'avoir un couteau sur soi pour des raisons religieuses. Celle-là, c'est le seul exemple que j'ai où ce que le système n'a pas filtré quand c'était nécessaire. Mais pour le reste, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en parler. Là. C'est pas ça du tout mon point. Mais c'est un exemple que les fenêtres là, auraient été givrées. Ouais, puis à un moment donné, c'est pas un envahissement. C'est pas tout à coup, ah, les magasins ferment parce qu'il y a 3-4 juifs qui sont pas contents autrement. Non, c'est pas ça. C'était peut-être, ça aurait pas été nécessairement une bonne décision, mais ça aurait pas été bouleversant. Sauf que là, ça se ramasse, comprends-tu? Puis l'autre affaire, c'était un autre groupe de musulmans qui avait dit, on veut pas avoir de fèves au lard à notre visite à Cabane à sucre. Hey, la une, toi, chose. Pas de fèves au lard, là, c'est comme, non, bouleversement culturel. Puis après ça, ça a été expliqué dans d'autres articles par la suite que c'était un groupe qui avait demandé ça. De la même façon qu'un groupe, une compagnie pourrait dire, on voudrait faire jouer du Village People. Eux autres, ils ont dit, garde, nous autres, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est des clients, fuck. On dit pas en s'en allant, on veut plus jamais que ta place vende des bines. On s'en sac. Mais là, on est un groupe, on réserve, ça s'appelle un client. Puis on nous demande. Puis le gars aurait pu dire, « Ah oh non, moi, je suis pas content. C'est rire de ma grande culture de fèves au lard. » Mais non, à la place, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit oui. Puis là, ça s'est su. Puis il y a, je sais pas qui, mon oncle ou ma tante, je sais pas qui a dit, « Ben voyons donc. » Ben non, c'est pas « Ben voyons donc. » C'est un groupe qui a dit, « On veut ça. » Puis le gars aurait pu dire non, puis il a dit oui. Puis c'est tout, c'est terminé. Ça, le point, c'est de dire que je trouve qu'il y a beaucoup de matière à chicane qui viennent de trucs que dans vraie vie, si on n'était pas au courant, ça changerait absolument rien. Et c'est souvent ça mon critère, moi, avant d'embarquer dans un débat ou dans une conversation ou autre, c'est de me dire, c'est pas juste choisir tes combats. Ça aussi, c'est une phrase que je trouve intéressante, mais c'est pas choisir tes combats. C'est qu'il y a des combats qui n'ont pas lieu d'être. Il y a des combats qui n'ont pas lieu d'être. Je veux dire, qu'il y ait un guide sur une façon de parler qui circule à l'UQAM. Fuck, man, sérieux. L'UQAM, anyway, c'est vraiment un laboratoire d'un peu n'importe quoi. Puis ça convient à du monde. Puis le monde, ils vont là. Puis, je veux dire, il y en a qui finissent avec leur bac bien comme faut, puis qui ont eu de très belles études. Puis il y en a d'autres qui sont un peu plus freak. Puis ça s'appelle la liberté d'expression. Puis Je veux dire, moi, je sais pas l'université où je serais allé, zéro. Puis le monde qui veut l'étudier en informatique ou en génie, il y a un programme. Et peut-être qu'il préfère aller à l'école polytechnique, à l'ETS ou à l'UTI. Je veux dire, comprends-tu? C'est comme, jusqu'à présent, je pense pas que pour la majorité des étudiants à l'UQAM, c'est une pure perte de temps financée dans le vide pour produire des individus débiles. Non, pas pantoute. Mais il se passe des affaires-là au plan social, qui peut être une vertu d'un autre côté. C'est peut-être là qu'il y a des gens qui sont à l'avant-garde de mouvements, qui vont mourir dans l'œuf le lendemain ou qui d'autres fois vont se répandre. Regarde, à un moment donné, je fais juste dire, sérieux, sais-tu si un cas pour une nouvelle? Pourquoi je suis au courant? Alors voilà, c'était un petit peu mon bout ce matin. Et vous remarquerez que c'est une zone grise. Je suis pas tranché. Je fais juste observer ça. Je fais juste dire, quand une nouvelle arrive puis que vous dites, ah ben ça n'a pas de sens ou rah, rah, c'est un critère. Ça se peut que vous trouviez, moi le premier, que non, ça n'a pas de sens ou oui, je suis d'accord. Mais après ça, il y a vraiment l'autre question qui vient qui est, ça a-tu réellement un impact à quelque part ou juste le fait qu'on arrête d'en parler, ça meurt automatiquement. Et rappelez-vous tout le temps, ça, c'est que quand on antagonise quelqu'un, il veut encore plus se battre. Ça, c'est l'autre affaire. Quand quelqu'un met de l'avant quelque chose, puis que vous dites, vous le traitez de tout et non, puis que vous le combattez, il ne s'est jamais vendu autant de burkini en France que lors des épisodes où est-ce que chaque maire de ville décidait si oui ou non il allait interdire ou pas sur sa plage le burkini. Comprends-tu? Quand tout le monde disait comme c'est épouvantable sur le burkini, c'est là qu'il s'en est vendu le plus. À un moment donné, ils ont tranché, bing bang, c'est fini. Puis, pouf, c'est devenu une anecdote. Alors, voilà. OK, allez, à demain.